aux conférenciers. Et je vous prie d'excuser notre président, M. Mario Cotron, qui m'a chargé de vous dire ses amitiés.
Allez-y, allez-y. Bonsoir, messieurs, dames. Merci beaucoup d'être venus écouter M. Jacques Villain. Donc, c'est pour la 16e salon de la revue et du livre ancien. Donc, au niveau du salon de la revue et du livre ancien, on a l'habitude de faire des voyages avec Pierre Loti ou avec Henri de Monfred. Aujourd'hui, on a choisi des grands voyages. Je crois que je ne vous emmènerai pas plus loin qu'aujourd'hui. On aura fait le maximum avec la conquête de la Lune et donc pour le 40e anniversaire du premier homme sur la Lune. Donc ça va être plutôt orienté sur l'histoire des fusées et comment on en est arrivé à construire des véhicules capables de s'arracher à l'attraction terrestre pour voyager dans l'espace. Et donc c'est M. Jacques Villain qui a eu la gentillesse de venir ce soir pour nous parler de tout ça. M. Jacques Villain qui est un ingénieur qui a travaillé dans la construction des fusées, en particulier dans une période de sa vie sur les gyroscopes et dans une autre et sur le téléguidage enfin des fusées et dans une autre partie sur les tuyères et les moteurs. Qui donc connaît parfaitement la partie pratique de la chose, mais qui s'est aussi passionné pour l'histoire des fusées et qui a écrit de nombreux livres sur la conquête de l'espace. D'ailleurs, à la fin de la soirée, il y aura des livres qui seront proposés et que M. Jacques Villain vous dédicacera. Il est membre de l'Académie de l'air et de l'espace et de... C'est en anglais, c'est le... Voilà. Et je lui passe la parole.
Eh bien, écoutez, merci pour ces mots et puis encore toutes nos excuses pour ce retard. Je suis vraiment désolé, pas dans mes habitudes d'arriver en retard. Alors, ce n'est pas dans mes habitudes, mais l'ordinateur, voilà, on va peut-être y arriver, c'est un peu long. Hein. Vraiment, vous n'avez pas de chance. Bien, ça y est. Bien, bah écoutez, effectivement, comme disait M. Grillon tout à l'heure, comme vous le savez, vous en avez été témoin probablement au cours de l'été, on a fêté, si je puis dire, le 40e anniversaire de l'arrivée de l'homme sur la Lune. C'était donc le 21 juillet 1969. Alors, je ne vais pas vous raconter cette aventure lunaire, je vais essayer de la resituer dans, à la fois dans la science-fiction spatiale, qui commence, vous allez le voir, très très loin, et voir un peu ce qui a été accompli par rapport à cette science-fiction spatiale. Donc c'est un petit peu du rêve à la réalité. Qu'est-ce qui a été imaginé et qu'est-ce qui s'est réellement passé en matière de conquête de l'espace? Alors, entre cette gravure rupestre qu'on trouve dans une grotte en Espagne, qui, d'après les paléontologues, représente la Lune et le Soleil, et probablement, enfin à ce jour, c'est même la plus ancienne représentation humaine de la Lune et du Soleil. Donc, entre cette première image et celle-là, il s'est déroulé à peu près 10 000 ans. Alors, la première image ne veut pas forcément dire que l'homme a eu l'intention à ce moment-là d'aller dans la Lune ou d'aller aux abords du Soleil. Mais voyez que c'était déjà quand même dans les préoccupations des hommes du néolithique. Il faut dire qu'effectivement, les hommes, quand ils regardent le ciel, ben, ils voient en gros trois choses. Ils voient le Soleil. Et encore, le Soleil, ce n'est pas facile à regarder. Hein. Mais l'astre qui est le plus visible, c'est la Lune. Donc la Lune a toujours attiré l'homme. Et puis, ce qu'on voit en arrière-plan, bien, ce sont les étoiles. Donc, l'homme ait eu très tôt l'idée d'aller vers la Lune et d'aller vers les étoiles n'est quand même pas tout à fait étonnant. Alors, en attendant que ceci s'accomplisse, eh bien, il a fallu faire appel, je dirais, à des romanciers, à des rêveurs qui vont nous mettre en musique, si je puis dire, ce voyage dans les espaces et en particulier le voyage dans la Lune, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'astre le plus visible. Et même parfois, vous vous souvenez, quand il y a, vous voyez, quand il y a des nuages, quand il y a du mauvais temps, la Lune est changeante. Enfin bref, c'est l'imagination qui travaille à ce moment-là. Et donc, cette Lune attire forcément, je dirais, les convoitises de l'homme. Alors, je vais poser ça, ce sera plus simple. Alors, évidemment, quand on pose la question parmi les écrivains, quel est celui qui va le mieux promouvoir le voyage dans la Lune, le voyage dans les étoiles, bien évidemment, c'est Jules Verne. Et vous verrez, Jules Verne est absolument extraordinaire parce que tout ce qu'il raconte est faux. Mais extraordinairement, c'est lui qui va véritablement lancer, je dirais, la conquête de l'espace dans les esprits, donc au milieu du 19e siècle. Moi, je suis admiratif parce que en 1865, lorsqu'il va faire paraître son roman « De la Terre à la Lune », souvenez-vous, il prend un canon, vous vous rendez compte, prendre un canon pour aller dans la Lune, on ne survit pas à une telle épreuve, hein, ce n'est pas possible. Cette même année 1865, il y a un autre écrivain français qui s'appelle Achille Hérault. Vous qui êtes un passionné des livres anciens, je ne sais pas si vous l'avez vu passer un jour, « Voyage à Vénus ». Et c'est la première fois qu'on va utiliser une fusée pour aller dans l'espace. Or, tout le monde ignore Achille Hérault aujourd'hui. C'est Jules Verne qui a laissé la trace avec des idées qui sont complètement à côté de la plaque, il faut bien le dire. Donc, pour ça que je dis que la performance de Jules Verne est absolument extraordinaire. Alors, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, je veux bien distinguer deux choses, si vous voulez, dans ce que je vais dire. D'abord, le rêve. Ensuite, on va voir la réalité. Et dans le rêve et la réalité, eh bien, on va distinguer d'abord l'accès à l'espace, comment on va imaginer des choses pour aller dans l'espace. Et puis aussi, comment on va essayer d'imaginer comment on peut vivre dans l'espace. Donc, vous voyez bien, accès à l'espace et vie dans l'espace. Donc, première chose, l'accès à l'espace. Et qu'a-t-on rêvé pendant des siècles pour pouvoir aller dans l'espace? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais le premier roman qui parle du voyage dans la Lune, il ne date pas du XXe siècle. Il date exactement de 160 après Jésus-Christ. C'est un grec, Lucien de Samosate, qui va écrire d'ailleurs deux romans à propos du voyage dans la Lune. Alors, pour aller dans la Lune, évidemment, à cette époque-là, la fusée, on ne l'imagine pas. Et on va prendre les moyens de transport qui sont utilisés déjà sur Terre. Et le premier roman de Lucien de Samosate, qui s'appelle Icaro Menippus, c'est le nom du personnage qui va envoyer dans la Lune. Et Lucien de Samosate, eh bien, imagine qu'un soir, en Méditerranée, vous savez qu'il y a un vent qui se lève, qui s'appelle le Meltem, vers au coup de 5 heures du soir. Et ce jour-là, le Meltem est particulièrement violent. Et le bateau qui doit amener Icaro Menippus dans le port d'Antioche est pris dans une immense tempête, mais violente comme jamais on en a vu. Et ce bateau va se retrouver sur la Lune. Donc, la première fois que nous sommes allés sur la Lune, au moins en imagination, c'est avec un bateau à voile. Deuxième moyen qu'on va utiliser, et dans son deuxième roman, c'est ce que va prendre Lucien de Samosate, les oiseaux. Évidemment, l'homme voit que les oiseaux montent en altitude, font des circonvolutions dans l'espace. Donc, l'idée, c'est de prendre des oiseaux pour aller dans la Lune. Alors, un certain nombre d'auteurs, j'ai oublié de vous dire qu'entre le deuxième siècle et puis le début du XXe, personnellement, j'ai dénombré 300 romans parlant de la conquête de l'espace, en français, en anglais, en espagnol, et deux en italien. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, la conquête de l'espace. C'est inscrit, j'allais dire, dans les gènes de l'homme. Enfin, c'est au moins inscrit dans ses désirs. Hein. Et donc, les romanciers, vous voyez, il y a 300 romanciers qui se sont, entre le 2e siècle et le 19e siècle, essayé à cet exercice qui est d'aller dans la Lune. Alors, vous avez ici, par exemple, un auteur anglais qui s'appelle Francis Godwin, qui écrit un voyage dans la Lune, et il fait voyager ses héros avec des oiseaux, et en particulier, là, ici, vous avez des oies sauvages. Un poème perse d'un poète qui s'appelle Firdousi, 11e siècle, lui aussi, vous voyez, il envoie un roi perse qui est sur son trône. Il l'envoie dans la lune avec des aigles qui vont l'emmener donc au-dessus de la terre. Merci. On va utiliser aussi le cheval. Le cheval, c'est un roman qui date du 15e siècle. Ça, c'est une illustration qui date du 19e, illustration de Gustave Doré, bien connu. Roland Furieux, hein, poète italien. Donc, on va partir dans la lune avec des chevaux ailés, chevaux rouges. Hein, c'est encore plus fantastique. Et arrive quand même un personnage extrêmement important que vous connaissez. En plus, il est français, qui s'appelle Cyrano de Bergerac. Alors là, on touche au sublime. On touche au sublime, pourquoi ? Parce que Cyrano de Bergerac va imaginer 9 moyens pour être dans l'espace. Vous voyez, il réfléchit. Et c'est le premier qui imagine la fusée. Alors, il n'appelle pas fusée, il appelle ça des feux successifs de salpêtre. Vous voyez, c'est déjà la notion de la fusée à étage. Hein ? On est en 1650. Hein ? Extraordinaire. Mais permettez-moi d'avoir plus d'affection pour d'autres moyens dont il nous parle, et en particulier celui qui est l'objet de la gravure que vous avez devant vous. Le personnage héros ici se lève de bonne heure le matin, va dans les champs, récupère de la rosée, attend que le soleil se lève. La chaleur du soleil va faire en sorte que la rosée liquide va se transformer en rosée vapeur. Et notre homme va partir comme ça dans l'espace. Elle n'est pas belle, la vie, hein ? C'est extraordinaire, hein ? C'est extraordinaire. Il y a 2 autres moyens dont je voulais vous parler également. Le traîneau. Ah, ça, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse utiliser un traîneau pour aller dans la Lune. Eh bien, si, notre ami Cyrano met ses voyageurs sur un traîneau en fer. Il ne s'agit pas d'un traîneau en bois. Hein, et chacun sur les genoux a un aimant. 1, 2, 3, on jette l'aimant. Donc, le traîneau est attiré par l'aimant. Et on répète l'opération pendant 384 000 kilomètres. Hein, c'est quand même fantastique aussi. Et puis, le dernier moyen, eh bien, je vous conseille, on est demain samedi, vous aurez un peu de temps, vous allez chez votre boucher et vous lui demandez de la moelle de bœuf. Pourquoi ? Parce que la moelle de bœuf a la propriété, si vous en enduisez le corps, d'être attiré par la lune. Donc essayez demain, et peut-être que demain soir, bah, vous nous téléphonerez de la mer de la tranquillité en disant « ça a marché ». Donc, vous voyez, hein, c'est absolument extraordinaire l'imagination des écrivains de cette époque, et de Cyrano de Bergerac en particulier. Alors Jean, je reviens à notre ami Jules Verne. Notre ami Jules Verne qui donc imagine de prendre un grand canon. Alors, j'entends beaucoup les gens dire oh, c'est fantastique, il a prévu de faire partir l'obus qui contient les voyageurs de Floride. Oh, quelle prémonition, etc. Non, non, pas du tout. Jules Verne dit bien dans son roman, il faut effectivement que je parte d'un endroit qui soit assez proche de l'équateur pour pouvoir bénéficier de la vitesse de rotation de la Terre là où elle est maximum à l'équateur. Mais il faut que je construise mon canon, donc il me faut une sidérurgie pas très loin. D'autant plus que mon canon, il va faire 120 mètres de long. Vous vous rendez compte, c'est des milliers de tonnes d'acier. Et donc, il faut que j'ai une sidérurgie. Or, dans les États américains qui sont le plus au sud, il y en a 2 qui répondent à la question. Il y a la sidérurgie dans 12 villes du Texas, et puis il y a la sidérurgie dans une seule ville en Floride. Et il dit, je choisis la Floride parce que si je choisis une ville du Texas, je vais avoir les 11 autres sur le dos qui vont râler parce qu'ils n'ont pas été choisis. Donc, voilà comment a été choisie la Floride. Vous voyez, on accorde à Jules Verne parfois des mérites qu'il n'a pas. Donc, rétablissons un peu la vérité. Et cela étant, ce roman, effectivement, est absolument extraordinaire. Et surtout, comme je l'ai dit, eh bien, il va susciter des vocations. On va voir tout à l'heure les grands pionniers, ceux qui vont venir après les romanciers, ceux qui vont traduire les visions des romanciers en équation, on peut appeler ça comme ça, ont tous été séduits par les romans de Jules Verne. Alors, dans Jules Verne, il y a quand même des choses un peu troublantes. Si vous voulez, l'équipage, il est composé de 3 hommes. Apollo, c'est 3 hommes. L'obus qui revient de la Lune, il amerrit, il n'atterrit pas. Vous voyez, il y a quand même des... Et Jules Verne imagine qu'il y a des millions de personnes sur les plages de Floride. C'est exactement ce qui va se passer au moment du lancement de Saturne V. Hein. Donc, il y a quand même des choses tout à fait intéressantes. Alors, d'autres moyens vont être utilisés par les romanciers, le ballon. Alors, Il faut dire qu'à l'époque, 16e, 17e siècle, on ne sait pas faire la différence entre l'atmosphère et l'espace. Elle vide. On ne sait pas jusqu'où va l'atmosphère. Donc on peut imaginer qu'il y a de l'air, il y a de l'air jusqu'à la Lune. Donc le ballon, à ce moment-là, peut être intéressant. Mais bon, on apprendra quelques années plus tard que ce n'est pas le cas. Au-delà de 100 km, il n'y a plus d'air et donc le ballon ne marche plus. Alors, avec l'arrivée du 19e siècle et surtout l'arrivée des sciences et des techniques, chez les romanciers, les choses vont un peu changer. C'est-à-dire qu'on va être moins dans l'aspect poétique. On va se raccrocher un peu plus aux nouvelles inventions qui arrivent. Alors, vous voyez, là, on est au début du 20e siècle. Dans un certain nombre de... Enfin, dans ce roman en particulier ou dans ce magazine, eh bien, on parle déjà d'antigravitation. On est à l'époque d'H.G. Wells, la guerre des mondes. N'oubliez pas qu'H.G. Wells va inventer la cavorite. C'est un peu comme la moelle de bœuf. Peut-être qu'il a lu Cyrano avant et il enduit son vaisseau de cavorite qui est attiré par la Lune. Bon, mais on commence à voir apparaître des choses un peu plus scientifiques, l'antigravitation. La fusée devient... Alors voilà, ça c'est la fusée qui illustre le roman de Achille Hérault, Voyage à Vénus, 1845. Alors, ça ne ressemble pas tout à fait à une fusée d'aujourd'hui, encore que les réservoirs sphériques, ça pourrait représenter, mais enfin bon, l'imagination de l'illustrateur est en jeu, là. Et là, on se projette un peu plus. On est en 1952. On est en 1952. C'est une fusée, vous voyez, mi-avion, mi-fusée, conçue par Von Braun. Von Braun est parti d'Allemagne en 1945, est arrivé, il travaille à l'US Army à cette époque-là. Et bien qu'il fasse des fusées militaires, il réfléchit à la conquête de l'espace. Et donc, voilà un concept de fusée qui est à la fois une fusée pour décoller et puis pour le retour dans l'atmosphère, c'est un avion. Alors, ça, c'est quand même de la prémonition, parce que c'est ce qu'on essaie de faire depuis 50 ans. Depuis 50 ans, on essaie de concevoir des fusées qui soient un petit peu comme les avions. C'est-à-dire qu'une fois que la combustion, une fois que la propulsion est terminée, de ne pas rejeter à la mer les structures comme on le fait aujourd'hui avec des fusées classiques, Ariane ou toutes les fusées modernes. Une fois que la combustion est terminée, les étages retombent à la mer ou sur Terre, et puis c'est terminé, il ne reste que le satellite. L'idée, c'est quand même, in fine, d'avoir un lanceur qui soit un peu comme un avion, où il y aurait simplement le plein à faire avant le départ. L'avion décolle, enfin, le lanceur-avion décolle, arrive en orbite, largue son satellite et redescend comme un avion. Bon, ça fait 50 ans que les ingénieurs travaillent sur le sujet, et on n'est encore pas prêt d'arriver au bout de nos peines. Mais vous voyez, déjà dans les années 50, voilà les prémonitions qu'il y avait du côté américain. Alors, j'ai une faiblesse tout à fait particulière pour cet ouvrage que vous avez tous lu, que vous connaissez. Pour tout vous avouer, en 55, j'étais opéré de l'appendicite et ma mère m'a offert. On a marché sur la Lune et là, il y a eu un déclic, il faut bien le dire. 12 ans plus tard, un samedi matin, je cherchais le bip-bip du Spoutnik, et là, ça y est, j'étais comme le poisson, j'étais définitivement ferré. Mais c'est vraiment, on a marché sur la Lune, moi qui m'a ouvert la voie. La voie est d'autant plus ouverte, c'est qu'elle est extraordinaire. Vous voyez même cette gravure, on n'est encore jamais allé sur la Lune à cette époque-là, mais ce sont des paysages lunaires qu'on connaît maintenant. C'est fabuleux. Les scaphandres n'ont rien à envier. Le scaphandre de Neil Armstrong qui a débarqué sur la Lune, c'était cette boule sphérique en verre qu'il avait au-dessus de la tête. C'était la même chose. Alors, quant à cette fusée, c'est la fusée de demain. C'est une fusée à propulsion nucléaire, la fusée de Tintin. Alors, je dis la fusée de demain, je ne sais pas si elle sera la fusée de demain, mais c'est ce vers quoi on va tendre, probablement. Cela étant, les problèmes de sécurité sont tels que avoir un réacteur nucléaire au décollage, si la fusée se crache, vous voyez, ça pose... Bon, on en reparlera dans quelques années. Mais donc, vous voyez, on est en 55 et un certain nombre d'auteurs comme Hergé ont une prémonition tout à fait extraordinaire. 1927, voilà un Autrichien qui invente dans ses romans la propulsion ionique, électrique, où on n'éjecte plus des gaz de combustion, mais on éjecte des ions. Extraordinaire. Les premières applications datent d'il y a 5-6 ans. C'est la sonde européenne Smart One qui est allée tourner autour de la Lune, qui était propulsée par un moteur comme ça, un moteur ionique. Hein. Je parlerai de Tsiolkovsky tout à l'heure. Et puis, la science-fiction, bien évidemment, mais là, c'est plus proche de nous, nous a emmenés dans des territoires qu'on n'imaginait pas et qui n'ont plus rien à voir avec la physique, d'ailleurs, enfin, telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Donc, où il s'agit de voyager entre les galaxies, entre les étoiles. Donc, pour ça, il faut des vitesses absolument extraordinaires. Hein. Et là, c'est plus de la propulsion, c'est on joue sur la contraction et l'extension de l'espace-temps qu'il y a devant le vaisseau. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais là, on est dans une autre dimension. Hein. Donc, voilà un peu comment la science-fiction, au cours de 2000 années, hein, a essayé de nous emmener sur orbite, si je puis dire. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Comment, depuis 1957, allons-nous dans l'espace? D'abord les Chinois. C'est les Chinois qui ont inventé la fusée. Probablement en 970 après Jésus-Christ, donc au Xe siècle. Vous voyez, la fusée, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Hein. Alors, ces fusées, bien évidemment, ce n'est pas Ariane avec ses 700 tonnes. Hein. Comme vous voyez ici, ce sont des flèches. Et au bout de la flèche, il y a une petite cartouche de poudre avec une petite tuyère. On met à feu. Et donc, la propulsion va permettre de donner un gain de portée à la flèche. Donc c'est une arme de guerre. Première application de la fusée, c'est une arme de guerre. Et les chroniques chinoises nous disent par exemple qu'en 1232, il y a une célèbre bataille dans la ville de Kefungfu où il y a 100 000 combattants qui ont des fusées. C'est extraordinaire, hein? On progresse dans le siècle, dans les siècles, 16e siècle. On est en Autriche. C'est un document qu'on a retrouvé en 1979 dans un monastère roumain. Eh bien, vous avez sur la gauche un dessin d'une fusée à étage. Vous voyez, premier A en bas, premier étage, et le A, c'est le deuxième étage. Là, on est au 16e siècle. Fusée à poudre. Et ce qui est extraordinaire dans le document, c'est que l'auteur nous dit, ce qui est embêtant dans ces fusées, c'est qu'il y a la structure en acier qui est une masse inerte. Si on pouvait réaliser la structure en poudre, mais c'est ce qu'essaient de faire les motoristes de fusées depuis longtemps, d'avoir que, d'abord que la structure soit la plus légère possible, mais si en plus on peut la faire en un matériau combustible qui participe à la combustion, ce serait extraordinaire. 16e siècle. Vous savez, la Bruyère disait « Tout est dit et l'on vient trop tard hein? ». Vous voyez quoi, les idées, on ne les a pas inventées il y a 15 jours. Hein? Et puis sur la photo de droite, ici, ben, vous avez, au bout d'une fusée, vous avez une petite tour avec une petite porte. Alors, est-ce que ce n'est pas vraiment la prémonition du vol habité? 16e siècle. Extraordinaire. Alors, il y a eu, semble-t-il, deux tentatives. Alors, non pas d'envoi d'hommes dans l'espace, mais au moins d'envoi d'hommes en altitude. La première semble avoir eu lieu en Chine en 1500. Un mandarin du nom de Wang Hu avait construit, alors ça c'est un dessin qui a été fait il y a quelques années par des amis américains, avait construit une espèce de véhicule avec 47 fusées à poudre et puis avec une espèce de cerf-volant au-dessus. Eh oui, donc il a eu son coulis qui a mis le feu à ses 47 fusées à poudre, mais on n'a rien retrouvé. Hein, tout a explosé. Donc, première tentative infructueuse de partir dans l'espace. Et puis, la deuxième tentative a eu lieu en 1623. 1623, le sultan Mourad IV a une fille et l'un de ses sous-officiers, qui s'appelait Lagari Chelebi, a construit une espèce de chaise au-dessous de laquelle il y avait des fusées. Il s'est assis dessus pour montrer que les fusées pouvaient avoir un avenir militaire eh bien, mis le feu aux fusées et il a fait un bond balistique au-dessus du Bosphore. Il est retombé à l'eau, sain et sauf, et il a été promu au grade d'officier. Hein? Première promotion de la conquête de l'espace. Alors, il y a eu d'autres tentatives par la suite, en particulier en France, à Marseille, Ruggieri, qui était un célèbre artificier, hein, toute une école, toute une famille, a fait monter un mouton, des poules à plusieurs dizaines de mètres d'altitude, et puis il y avait un parasol qui se déployait et redescendait. Alors, il a voulu refaire l'expérience avec un jeune garçon sur le champ de Mars à Paris en 1829, mais la police est arrivée, mettant fin à l'expérimentation. Alors, il va se dérouler en 1799 un événement extrêmement important en Inde. Comme vous le savez, à cette époque-là, l'armée britannique essaie de s'approprier, enfin, l'Empire britannique ou la couronne britannique essaie de s'approprier l'Inde et va se trouver en lutte avec un certain nombre de sultans, et en particulier avec le sultan de Mysore. Et le sultan de Mysore, dans son armée, il a un contingent de 5000 fuséens. Alors ça, c'est l'héritage de la Chine. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc la Chine a inventé les fusées, les Mongols qui ont conquis la Chine ont récupéré l'invention, les Mongols ont été en guerre avec les Japonais, qui eux aussi ont récupéré l'invention, les Mongols ont été en guerre avec les Arabes, donc qui ont récupéré l'invention. Notre bon roi Saint-Louis est parti en croisade, il s'est frité avec les Arabes à Damiette en Égypte, et Saint-Louis est le premier Européen, enfin avec ses troupes en tout cas, à avoir vu les premières fusées. Ces premières fusées vont être opérationnelles en Europe en 1379, donc un siècle après, chez les Italiens. Il va y avoir notamment une bataille à Vérone entre les Génois et les Vénitiens, où ils vont se batailler à coups de fusée. 1429, Orléans, Jeanne d'Arc tire des fusées contre les Anglais. Ces fusées vont être utilisées aussi toujours au XVe siècle dans la bataille de Pont-Audemer, la bataille de Corbeil. Vous voyez, c'est largement utilisé, les fusées, dans la guerre. Et donc, je reviens à 1799, donc cette bataille entre les Anglais et les Indiens. Et dans les rangs anglais, il y a un colonel qui s'appelle Congreve et qui va essayer de tirer les leçons. Parce que les Anglais ont pris la pâtée, là, hein, à la bataille de Seringapatam. Donc, il va en tirer les leçons. Et en 1803, il va créer un arsenal à Woolwich, près de Londres, où il va fabriquer pour la première fois en Europe, en série, en grande série, les fusées. Et là, vous avez ici les fusées qui étaient fabriquées, donc 1805-1806. Certaines de ces fusées ont une masse de 200 kg. Ce sont des fusées qui portent à 6-7 km, en gros. Alors, ça fait beaucoup de bruit, ça fait peur aux chevaux, c'est vrai, ça fait aussi quelques dégâts, mais bon, la précision n'est pas terrible. Hein. Vous le voyez sur ces photos, vous avez des espèces d'anneaux, là, et c'était pour glisser une grande baguette. La baguette permettait à la fusée de ne pas avancer comme ça en basculant, mais d'avoir une trajectoire à peu près stable. Mais il faut dire que la précision était quand même pas terrible au bout de la chose. À partir de ce moment-là, les fusées vont vraiment être réparties en Europe. Napoléon va avoir aussi des fusées. D'ailleurs, en 1809, souvenez-vous, le Danemark soutient Napoléon. Les Anglais, la flotte anglaise arrive devant Copenhague et vont tirer je crois bien que c'est 7000 fusées qui vont brûler entièrement Copenhague. Hein? Non, les fusées à cette époque-là, pendant les batailles napoléoniennes, vont être très utilisées. Il y a d'ailleurs un célèbre tableau, je ne sais plus qui l'a peint d'ailleurs, où on voit à Waterloo les fusées qui passent entre les pattes des chevaux. Donc, il va y avoir d'ailleurs une lutte entre le canon et la fusée. Hein, de temps en temps, c'est la fusée qui va être plus performante, de temps en temps, c'est le canon, jusqu'en 1858, où les artilleurs vont mettre au point le canon à âme rayée. À l'intérieur du canon, on met une hélice, et l'obus va pouvoir tourner, sortir du canon et donc être beaucoup plus stable sur sa trajectoire et aller plus loin. Et là, la fusée va être hors du coup, si je puis dire. Hors du coup, jusque en 1916. 1916, c'est l'armée française qui remet au goût du jour les fusées pour la première fois sur des avions. Pourquoi ? Parce que l'armée allemande a déployé sur la Meuse des ballons d'observation et un lieutenant de vaisseau français va avoir l'idée d'utiliser des fusées paragrèles montées sur des avions pour aller descendre les ballons. Ça demandait un quart d'heure. Les ballons ont tous été descendus. Ah oui. Et parmi les pilotes de l'époque, il y avait Nagesser, bien connu après pour avoir tenté de traverser l'Atlantique. Alors, c'est très intéressant. D'ailleurs, je vous ai dit, 1858, le canon prend une importance considérable parce que ses performances vont être augmentées. Et quand on prend le dictionnaire Larousse de 1898, on y voit la fusée maintenant n'a plus aucun avenir, c'est terminé. Il n'y a plus rien à voir, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Ah oui, c'est. Alors là, ça manque un peu de prémonition, sans aucun doute. Alors, arrive à ce moment-là, donc vous l'avez vu, ça fait 1000 ans que la fusée est utilisée dans les armées. Il y a quelques farfelus, comme on l'a vu, Conrad Haas ou le Chinois ou le Turc qui essaient d'utiliser la fusée pour aller dans l'atmosphère ou aller dans l'espace. Mais personne n'a vraiment encore imaginé d'utiliser la fusée pour aller dans l'espace, hormis Achille Hérault ou Cyrano de Bergerac. Et au tournant du 19e et du 20e siècle, vont apparaître quatre grands pionniers qui, eux, vont vraiment être les artisans du commencement de la conquête spatiale. Ce sont des gens qui vont traduire cette espèce de vision des romanciers, je le disais tout à l'heure, en équation et qui vont montrer que ce voyage spatial va pouvoir se faire. Alors, à tout seigneur, tout honneur, le premier est un Russe. Il s'appelle Konstantin Eduardovitch Tsiolkovsky. C'est un instituteur de la région à Kalouga, au sud de Moscou. Il a d'abord un grand mérite, c'est qu'il va être le premier à montrer comment fonctionne la fusée. Parce que la fusée existe depuis 10 siècles. On imagine que pour avancer, les gaz de combustion s'appuient sur l'air. Or, en fait, il va nous dire, mais attendez, vous vous gourrez complètement. La fusée avance parce que c'est le principe de l'action et de la réaction énoncé par Newton au XVIIe siècle. Si vous éjectez une masse vers l'arrière, les gaz de combustion, ben la fusée, par réaction, avance vers l'avant. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle ça fonctionne à la fois dans l'atmosphère et dans l'espace. Et il n'y a pas besoin de s'appuyer sur l'air. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Donc, il met ça en équation. Alors, il va être doué aussi d'une vision absolument extraordinaire. Il va nous dire, on est en 1903, il va nous dire, les meilleurs carburants pour les fusées, c'est l'oxygène et l'hydrogène. Le premier moteur qui va être réalisé avec ça, c'est en 1958, 60 ans plus tard. Fabuleux. Alors, il va nous prévoir aussi des stations orbitales, il va nous prévoir les satellites, etc., etc. Donc, Tsiolkovsky, un Russe. Le deuxième, c'est un Américain, Goddard. Goddard va commencer à travailler vers 1900... Enfin, il a un premier écrit en 1899, où il parle de propulsion nucléaire, déjà. Mais il va commencer véritablement à travailler dans les fusées à partir de 1910-1911. Il va travailler sur des fusées à poudre. Le gouvernement américain se moque éperdument de ses travaux, il faut bien le dire, ne finance rien, ça ne l'intéresse pas. Et donc, il va se faire financer par la fondation Guggenheim. Et le 16 mars 1926, il met au point une toute petite fusée, la première fusée propulsée avec des carburants liquides, de l'oxygène liquide et de l'essence. Et ça, c'est une grande première. Alors, fusée toute petite, hein, ça s'élève de 10 mètres. Mais quand même, pour la première fois, on fait s'élever une fusée avec des carburants liquides. Goddard, à partir des années, fin des années 30, va travailler dans le désert quasiment, à Roswell d'ailleurs. Hein. J'ai toujours imaginé, vous savez que Roswell est un lieu qui est réputé pour être un lieu où on a vu des apparitions d'extraterrestres. Hein. Personne n'a jamais soulevé le fait que 40 ans auparavant et pendant 15 ans, Goddard a envoyé dans l'espace des fusées qui faisaient du bruit, mais personne ne voyait ce qui se passait. Donc, je me demande si ce n'est pas Goddard qui a créé, si vous voulez, ce, je sais pas comment dire, ce climat propre à ce que plus tard, les gens imaginent que les extraterrestres arrivent à Roswell. C'est un sujet qui pourrait être intéressant à creuser. Bon, donc Goddard va travailler seul, va construire des fusées qui vont monter à plusieurs centaines de mètres, même parfois plusieurs kilomètres. Il va mettre au point des ailerons, enfin les moteurs à liquide, des systèmes de gyroscopes, etc. Donc il va faire un travail expérimental considérable. Le troisième, c'est Hermann Oberth. C'est un... Ah, j'allais dire un Allemand. Un jour, je faisais une conférence à Washington et je l'ai qualifié d'Allemand et il y avait un Roumain dans la salle. Je me suis fait engueuler. Alors, il n'avait pas tout à fait tort parce que Oberth est de langue allemande, mais il est né à l'époque en Transylvanie. Aujourd'hui, c'est Sibiu, en Roumanie. Donc, c'est théoriquement un Roumain, mais pas de, à l'époque où il est né, ce n'était pas la Roumanie, mais de langue allemande. Bon, les Roumains veulent que ce soit un des leurs, tant mieux. Les Allemands aussi, donc c'est parfait. Donc, Oberth... C'est le deuxième instituteur de la bande. Tsiolkovsky est instituteur, Oberth était aussi instituteur. C'est le troisième, même parce que Goddard était professeur. Oui, l'éducation nationale a apporté un grand lot à la conquête de l'espace, c'est sûr. Alors, Oberth, en 1915, va trouver l'état-major allemand en lui disant l'avenir est aux fusées dans les armées. Il reçoit un courrier de la Reichswehr, oui. À l'époque, qui dit, mais cher monsieur, vous n'y connaissez rien, les fusées ne dépasseront jamais 7 km. Donc, on s'en fout un peu de votre affaire, allez voir ailleurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se tourner vers la conquête de l'espace. Il va écrire un bouquin qui va faire autorité, je crois que c'est en 23, vers les planètes, comme ça le titre. Et donc, là, c'est une sommité de connaissances en matière de réalisation de fusées, satellites, etc., etc. Oberth va être conseiller technique du film de Fritz Lang, Une femme dans la lune, en 1929. Il s'était engagé, pour la sortie du film, à faire décoller une première fusée, mais bon, il est arrivé trop tard. Il a fait un an plus tard, ça a marché, mais là, ce n'était pas possible. Et surtout, à cette époque-là, en Allemagne, dans les années 30, il y a un engouement extraordinaire. Il y a un certain nombre de clubs, de sociétés savantes qui vont se créer pour faire des fusées, pour promouvoir les voyages dans l'espace. Dans plusieurs villes, à Berlin, à Breslau, à Hambourg, enfin, etc. etc. L'Allemagne, à cette époque-là, va vraiment être un lieu, je dirais, un vivier extraordinaire pour toutes ces idées concernant les fusées et l'astronautique. Du côté soviétique, c'est aussi à cette époque-là que les choses vont commencer à démarrer, mais on est dans une atmosphère un peu plus bridée, vous vous rendez compte. Et à cette époque-là, toutes les recherches qui vont se faire en Union soviétique vont se faire dans un cadre militaire. Pas question d'avoir des jeunes farfelus qui vont construire des fusées comme ça peut se passer en Allemagne. Le quatrième personnage, le quatrième pionnier, ben c'est un Français. Il s'appelle Robert Esnault-Peltry. Alors, c'est un personnage aussi très étonnant, ils sont tous étonnants d'ailleurs. C'est un monsieur qui s'intéresse d'abord à l'aviation. C'est l'inventeur du manche à balai, 1906. C'est l'inventeur du moteur en étoile. C'est l'inventeur de l'avion monoplan métallique. C'est l'inventeur du train d'atterrissage hydropneumatique. Et puis, à partir de 1907-1908, il est le premier en France à s'intéresser à la conquête de l'espace. Et donc, alors la guerre va arriver, bien évidemment. Il va laisser tomber un peu ça, essayer de construire des avions militaires. D'ailleurs, ça n'a pas très bien marché, peu importe. Et il va reprendre ses travaux sur l'espace à partir de 1921-22. Et lui aussi va faire preuve d'une prémonition tout à fait étonnante. Et surtout dans le domaine des fusées militaires. Rendez compte qu'en mai 1928, il écrit à l'état-major en disant « L'aviation, d'un point de vue stratégique, c'est sans doute fini. L'avenir maintenant est pour un pays qui aura des centaines de missiles. » Alors le mot « missile » n'est encore pas inventé. mais des missiles avec des armes nucléaires. C'est comme ça que nous tiendrons en respect les Allemands. Ce n'est pas la ligne Maginot, c'est des missiles à tête nucléaire. Vous rendez compte ? C'est absolument extraordinaire. Alors, il rajoute aussi, ça s'applique aussi à la Grande-Bretagne. Bon, des vieux ressentiments de Jeanne d'Arc, etc. Donc, voilà des gens, vous voyez, c'est extraordinaire. Et à partir de 1930, il va se mettre à réaliser lui-même ses propres fusées. Alors, le problème, c'est qu'il va avoir une démarche très, très analytique. Et d'abord, l'état-major français s'en fout complètement, hein, il faut bien le dire. Il va quand même récupérer 3 francs 6 sous pour faire ses fusées, de quoi entretenir 4 personnes, une équipe de 4 personnes. Faut voir qu'à cette époque-là, les Allemands vont créer un centre sur les bords de la Baltique qui s'appelle Peenemünde. C'est 10 000 personnes. D'accord ? Là encore, on n'avait pas compris grand-chose à l'évolution du monde. Et donc, il va commencer à construire des moteurs-fusées, mais en 1940, il n'aura pas construit de fusée encore. Il n'en était pas loin. Mais ça sera l'invasion, l'occupation de la France. Et comme il ne supporte pas les Boches, il va émigrer en Suisse, où il arrêtera d'ailleurs. Il ne travaillera plus dans le domaine des fusées. Mais les travaux qu'il a effectués, surtout dans les années 20, vraiment font autorité. Alors voilà Tsiolkovsky, par exemple. Alors vous ne pouvez pas lire, mais là, c'est la page de couverture de l'un de ses bouquins de 1935, où vous avez la coupe d'une fusée avec oxygène d'un côté, hydrogène de l'autre. Donc, on arrive au cours de la Seconde Guerre mondiale, et comme vous l'avez pressenti, bien, ce sont les Allemands qui vont obtenir les premiers résultats les plus importants. Donc, dans une petite ville sur les bords de la Baltique qui s'appelle Peenemünde, là où un centre de recherche très important a été créé. Et donc, le 3 octobre 1942, eh bien, pour la première fois, une grosse fusée décolle de ce centre. Vous la voyez là. Cette fusée ne s'appelle pas encore V2, elle s'appelle A4, Aggregat FIR. C'est la quatrième modèle. Elle s'appellera V2 à partir de 1944, lorsque l'armée allemande bombardera à Paris, Londres, Anvers, enfin un certain nombre de villes. Cette fusée a une masse de 12 tonnes. La poussée de son moteur est de 26 tonnes. C'est considérable. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Allemands vont tout inventer ici en matière de guidage, de propulsion, les turbopompes, les refroidissements de la tuyère par circulation de carburant. Enfin, les moteurs fusées d'aujourd'hui n'ont rien à envier, sinon des performances un peu meilleures, parce qu'on les a améliorées quand même. Mais tous les principes de base ont été inventés entre 1937 et 1942 en Allemagne. Et ils vont tous se retrouver dans les fusées françaises, américaines, russes et même chinoises. Et même iraniennes, puisque les Iraniens sont les... Enfin, comme vous le savez, les Iraniens ont lancé leur premier satellite il y a 3 mois, et avec une fusée qui est un Scud amélioré, donc venant de Russie, qui était lui-même une amélioration du V2. Voilà. Alors, une autre grande date extrêmement importante, 4 octobre 1957. Alors, il faut dire qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945 et 1947, bien sûr, la priorité aux États-Unis et en Union soviétique, c'est pas tellement la conquête de l'espace, c'est les missiles porteurs d'armes nucléaires. Donc, on va voir progressivement ces deux pays améliorer les portées. Le V2 avait une portée de 300 km. On va passer à 600. Vers 1947-48, on va passer à 1200 km en 1950, et le premier pays qui sera capable de faire une fusée intercontinentale, c'est-à-dire capable d'envoyer une arme nucléaire à plus de 6000 km sur l'adversaire, eh bien ce sera le pays qui aura pris une option très forte du point de vue stratégique sur l'autre. Et à ce jeu-là, contre toute attente, il faut bien le dire, ce ne sont pas les Américains qui ont gagné, ce sont les Soviétiques. Ce sont les Soviétiques qui ont gagné parce qu'ils vont mettre au point une fusée absolument extraordinaire avec un concept tout à fait étonnant. Vous la voyez là d'ailleurs. On a un corps central avec un moteur fusée et on va mettre en fagot 4 autres moteurs fusées. Donc on va voir au décollage une poussée absolument extraordinaire de 270 tonnes alors que les Américains à l'époque sont à 40 tonnes à tout casser. Donc le concept ici va permettre aux Soviétiques d'avoir un missile intercontinental, mais aussi quelques semaines plus tard, en rajoutant un petit étage de propulsion, de transformer ce missile intercontinental en lanceur de satellites. Et donc, le 4 octobre 1957, eh bien, pour la première fois, l'homme, soviétique en l'occurrence, eh bien, met sur orbite terrestre le premier satellite, Sputnik 1, satellite de 86 kilos. Il n'y avait rien à l'intérieur, si ce n'est un émetteur, bip, bip, bip. Les moins jeunes d'entre nous s'en souviennent. Alors, en matière de fusée, l'apothéose viendra 12 ans plus tard, avec la fusée Saturn V qui emmènera des Américains sur la Lune. Alors là, les progrès considérables ont été faits. Vous avez vu le V2, il faisait 12 tonnes, une masse de 12 tonnes. Là, on est à 2900 tonnes. Cette fusée-là à 110 mètres de haut. Le premier étage a 5 moteurs. Chaque moteur a une masse de 15 tonnes. Et chaque moteur consomme 4 tonnes de carburant par seconde. Ces carburants, c'est de l'hydrogène liquide stocké à la température de moins 253 degrés dans les réservoirs et de l'oxygène liquide à moins 182 degrés. Et quand ces deux liquides rentrent en contact l'un avec l'autre, la température de combustion est de plus 3500 degrés. Donc vous voyez, je dis souvent, l'homme a maîtrisé deux fois le feu. La première fois, c'était l'Homo erectus, lorsqu'il a frappé de galets hein, en Afrique, là-bas du côté de l'Éthiopie. Pour la première fois, il a fait du feu. Et la deuxième fois, c'est quand il a fallu vaincre la gravité. Parce que réaliser une fusée comme ça, avec les chiffres que je viens de vous donner, c'est extraordinaire. Vous voyez, par exemple, le premier étage de cette fusée, il fait 10 mètres de diamètre, 40 mètres de haut. Eh bien, la puissance de ce premier étage est équivalente à 120 centrales EDF de 1200 mégawatts. 120 centrales nucléaires d'EDF, vous les mettez là-dedans. Alors, la différence, c'est que ça fonctionne 2 minutes et demie. La centrale d'EDF fonctionne toute la vie. Hein. Mais vous voyez un peu le concentré de puissance qu'il a fallu mettre pour pouvoir vaincre la pesanteur. Donc, vous voyez pourquoi les hommes, il y a 2000 ans, avaient déjà l'intention d'aller dans l'espace, mais il a fallu attendre que la technologie soit là pour pouvoir vaincre cette gravité. Alors, la logique suivante voulait effectivement, et on en a dit deux mots tout à l'heure, voulait que de cette fusée classique, qui au fur et à mesure de sa combustion, les étages vont retomber à la mer, hein, il ne reste que la partie satellitaire ou la cabine avec les trois hommes, eh bien, la logique voulait qu'on aille vers un engin complètement récupérable, où que le plein à faire pourrait dans l'espace. Bon, facile à dire, un peu moins facile à faire. Donc, il y a une étape intermédiaire qui est celle de la navette spatiale actuelle, où tout n'est pas récupérable, on récupère l'espèce d'avion, l'orbiteur, qui est là sur la gauche, et puis les structures blanches, là, des boosters à poudre. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une grande réussite, il faut bien le dire, parce que cette navette devait être là pour réduire les coûts de lancement. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que même en récupérant une partie, on ne réduisait pas les coûts de lancement. Enfin, ce n'était pas satisfaisant. Je vais vous donner un chiffre, parce que j'ai passé ma semaine à recalculer tout ça. Le financement de la navette a commencé en 1970. Il va s'arrêter, va être retiré du service dans 10 mois. Le programme a coûté 165 milliards de dollars, en dollars d'aujourd'hui. Il y a eu 128 vols. Ce qui fait que quand on divise ces 165 par 128 vols, chaque vol a coûté 1 milliard 100 millions de dollars. Alors que lorsque la NASA a vendu à Nixon le coût de lancement, il l'a vendu à 10 millions de dollars. On est dans un. Alors même si vous actualisez aujourd'hui 10 millions de dollars en dollars 2008, même si vous multipliez par 10, vous arrivez à 100 millions de dollars. En fait, ça coûte 10 fois plus. Donc l'objectif est complètement raté. Donc la navette va être abandonnée. Alors ça, c'est quand même un des grands échecs de la conquête spatiale. Cela étant, il faut dire aussi que l'Amérique, au lendemain d'Apollo, était dans un état euphorique. Enfin, il faut se rappeler quand même que les Américains nous ont pris pour des idiots lorsqu'on a construit Ariane. Hein. Je me souviens en 1976, l'administrateur de la NASA est allé voir Hubert Curien, dont vous vous souvenez sans doute, qui était le président du CNES, et qui lui a dit « Mais arrêtez de construire Ariane, c'est complètement démodé, c'est fini, venez avec nous dans la navette. » Ah, heureusement que nous n'y sommes pas allés, heureusement. Hein. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, Ariane est leader sur le marché mondial. Hein. On a fait des choix tout à fait pertinents. Donc là, c'est une machine extraordinaire, sans aucun doute. Encore que, vous l'avez vu, il y a eu 14 morts. Hein. Challenger et Columbia. Mais ils sont passés à côté de leur objectif. Il faut le dire comme ça. Alors, voilà ce qu'imaginait, par exemple, Reagan au début des années 90, donc ces espèces d'avions spatiaux. On a beaucoup travaillé, et moi j'ai beaucoup travaillé en 95 sur ces sujets-là. Le problème n'est pas simple, parce qu'il faut un moteur qui soit à la fois turboréacteur et moteur-fusée. Puis entre deux, il faut qu'il soit statoréacteur. À l'époque, le projet du moteur faisait 40 mètres de long. Donc tout ça a été abandonné. Donc là, on est un peu au creux de la vague, hein, il faut bien le dire. Alors on attend avec une certaine impatience le discours d'Obama, là, sur l'avenir des vols habités américains. Il devrait faire ça pour le discours sur l'état de l'Union en janvier prochain. Bon, voilà l'accès à l'espace. On va essayer de voir maintenant comment on imaginait de vivre, d'explorer l'espace et ce qui s'est réellement passé. Alors, là encore, beaucoup de gens, des romanciers, ont imaginé comment on pouvait vivre dans l'espace. Alors, vous savez, jusqu'à une époque très récente, on parlait tout à l'heure de Victor Coissac. Hein, c'est un personnage qui a été le premier Français à écrire un bouquin en 1916 sur la conquête de l'espace. Alors, pas très connu, sans aucun doute. Mais en 1935, il écrivait « Le principal défi, si on est dans la Lune, c'est d'avoir des pistolets, parce qu'on va rencontrer des créatures hostiles. » Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, quand j'étais môme dans les années 50, les médias fréquemment nous parlaient des petits bonshommes verts de Mars. On ne savait pas s'ils étaient hostiles ou pas. Ça ne fait pas très longtemps, hein, que cette hostilité de créatures vivant sur des planètes a disparu. Hein. Donc, vous voyez, alors, ça existe toujours dans les films de science-fiction, bien évidemment. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'une des raisons qui ont motivé les hommes pour aller dans l'espace, c'est d'essayer de mieux comprendre le milieu dans lequel ils vivaient, de comprendre comment était faite la Lune, la Mars, etc., etc. Donc ça, depuis 1959, on envoie des sondes spatiales. On obtient des informations absolument extraordinaires, il faut bien le dire. On a fait plus de progrès en 50 ans d'envoi de sondes dans l'espace qu'en 8 siècles de lunettes et de télescopes. Quand vous voyez aujourd'hui, quand vous allez sur le site web de la NASA ou sur le site web de l'Agence spatiale européenne, vous cliquez sur Mars et vous voyez les photos qui sont prises de Mars, des montagnes, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Je regardais hier des images qui viennent d'être prises par la sonde américaine Cassini d'Encelade, Encelade qui est l'un des satellites de Saturne. On voit des geysers d'eau qui sortent de la surface d'Encelade, c'est extraordinaire. Europe, satellite de Jupiter. Je rappelle qu'on est, si on y va en sonde, il faut mettre 7 ans pour y aller. Hein. C'est pas là, c'est pas la porte à côté. Hein. Les photos, on voit des blocs de glace à la surface d'Europe. Non, c'est ce que nous ont fait les sondes spatiales depuis 10 ans. C'est absolument phénoménal. Les vols habités, bien évidemment, ça c'était là. Je dirais l'essence même de la conquête spatiale, hein, depuis 2000 ans. Donc, eh bien, disons qu'il y a eu trois périodes. Une première période qui va de 1961, le premier homme dans l'espace Gagarine, 61, 12 avril 61, jusqu'à la conquête de la Lune, Apollo. Là, on a mis au point, du côté russe comme du côté américain, les technologies, les procédures pour pouvoir envoyer des hommes dans l'espace. Et puis, les Américains ont fait leur escapade lunaire. Là, ils ont surpassé tout le monde, y compris les soviétiques. Les vols d'Apollo ont été un immense succès. Même Apollo 13, qui est un échec, pour moi, c'est un grand succès. Parce qu'être capable de ramener un équipage en perdition autour de la Lune, ça a été extraordinaire. Et on s'imaginait après Apollo, que soit les hommes s'implanteraient sur la Lune, soit qu'ils s'en iraient vers la nouvelle étape, Mars. Mais pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un repli sur la Terre, enfin autour de la Terre. Et depuis, avec la navette, depuis 1972, eh bien, l'homme, qu'il soit soviétique, enfin russe ou américain, on n'arrête pas de tourner autour de la Terre. Avec la navette, avec l'ISS, dont on se demande quand même quel est le but, quelle est la finalité. Ça, c'est pas très clair. Alors, tout ça va être arrêté. Après des dépenses, je l'ai dit. Ah oui. La navette est arrêtée dans un an et la station spatiale, elle est prévue d'être arrêtée en 2016. Elle n'ira pas, en tout cas, au-delà de 2020. Hein ? Donc, on attend avec impatience la nouvelle orientation du président Obama. Hein ? Bah oui, tourner autour de la Terre depuis 40 ans, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Je pense que l'objectif, c'est effectivement soit de s'implanter sur la Lune, soit d'aller sur Mars. Alors, de toute façon, on n'ira pas plus loin. Hein, il faut être conscient. La science-fiction, les films, la télévision vous emmenaient voyager entre les galaxies et les étoiles. On n'ira jamais. Je voudrais... En rêve, d'accord, mais on n'ira jamais. Pourquoi ? L'étoile la plus proche du système solaire, c'est Proxima du Centaure. Elle est à 4,3 années-lumière. L'année-lumière, c'est le chemin parcouru par la lumière qui va à la vitesse de 300 000 km à la seconde en une année. Donc, 3600 secondes dans une heure, multiplié par 24 heures par jour, multiplié par 365 jours, multiplié par 300 000. Voilà les kilomètres qui nous séparent de la plus proche étoile. Avec la propulsion qu'on a mis au point aujourd'hui, il nous faut 80 000 ans pour y aller. Et on ne voit pas d'autres formes de propulsion se profiler aujourd'hui. On n'en voit pas d'autres. On va peut-être améliorer encore de 5% ou 10%, mais donc la prochaine étoile, on la verra, la plus proche étoile, on ne la verra jamais. Il faut se faire une raison. Nous irons peut-être sur Mars un jour, mais nous n'irons pas au-delà. Déjà, Mars, c'est 9 mois de voyage. 9 mois aller, 9 mois de retour. Si on met 18 mois aller-retour, ce n'est pas pour rester 2 jours, c'est pour y rester au moins 6 mois. Donc, si un jour on va sur Mars, c'est au moins un voyage de 1000 jours. Et ce ne sera pas une partie de plaisir. Imaginez d'abord d'enfermer 5 ou 6 personnes dans une boîte de 3 ou 4 mètres cubes pendant 18 mois. Pendant le trajet, on va traverser des orages solaires qui oblige à avoir un compartiment à l'intérieur du vaisseau blindé, parce que le soleil, dans ses orages, nous envoie des protons, des trucs, une dose est mortelle. Ah oui, non, mais c'est... Là, il y a un décalage entre la science-fiction et la réalité. Hein. Sans compter que pour repartir, enfin d'abord pour atterrir sur Mars, ça ne sera pas une partie de plaisir, parce que la pesanteur sur Mars est plus grande que pour la Lune, est 3 fois plus importante. Donc il faudra beaucoup plus de carburant pour se poser et beaucoup plus de carburant pour en repartir. Donc le grand défi d'ailleurs de la conquête spatiale dans les années qui viennent, c'est le problème du carburant. Alors, on imagine d'avoir des stations-service à des points prédestinés de l'espace pour pouvoir refaire le plein. Bon, là c'est peut-être dans 40 ou dans 50 ans, j'en sais rien. Alors, il faut dire aussi que la conquête spatiale future s'inscrit dans un contexte qui n'est plus le même de celui des années 60. On est aujourd'hui dans des problèmes terrestres qui n'ont rien à voir avec ceux d'il y a 40 ans, réchauffement climatique, énergie, etc., où il va falloir dépenser énormément d'argent, justement, pour tout ça. Quelle place va-t-il rester à la conquête de l'espace ? J'en sais rien. Hein. En sachant très bien que Apollo, en coût d'aujourd'hui, a coûté 165 milliards de dollars. Mars, ce sera probablement 4 fois plus. Même un pays comme les États-Unis n'a plus les moyens de se payer ça. Donc c'est forcément une coalition, si je puis dire, internationale. Vous voyez, on ne peut plus raisonner comme on le raisonnait il y a 40 ans. Hein ? Les défis sont tout autres. Bon, Apollo sur la Lune, on en a parlé. Alors, quand on parle de la Lune, il y a toujours un problème qu'il faut évoquer. c'est éventuellement celui des ressources naturelles de la Lune. Il n'y a pas que sur la Lune, d'ailleurs. Sur Mars, ça peut être la même chose. Mais enfin, la Lune, un avantage, c'est qu'elle est à 2 jours de voyage et non pas à 18 mois. Hein. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, il existe sur la Lune un isotope de l'hélium qui s'appelle l'hélium-3. Et l'hélium-3 pourrait constituer un excellent combustible pour les futures centrales nucléaires à fusion. Et en plus, il ne fait pas de déchets. C'est quand même pas inintéressant. Bon, il faut que tout ça mûrisse, sans aucun doute. Les Russes travaillent beaucoup sur le sujet, les Américains aussi. Mais l'un des problèmes majeurs, enfin, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que cet hélium-3, il est réparti à raison de 10 tonnes dans 1 million de tonnes de sol lunaire. Ensuite, pour le mettre dans un conditionnement adéquat, il faut le chauffer pour le transformer sur place. Donc il faut déjà constituer sur la Lune une infrastructure industrielle non négligeable. Et ensuite, il faut le monter en orbite lunaire, donc avoir une fusée qui le monte en orbite lunaire et une deuxième fusée qui l'emmène vers la Terre. Imaginez que dans 70 ans, on dise qu'il n'y a plus d'énergie sur Terre, cet hélium-3 peut être intéressant. Donc on va le chercher sur la Lune et on imagine qu'il y a une noria de vaisseaux cargo qui rapporte cet hélium-3. Cet hélium-3, il va arriver à proximité de la Terre et ces cargos vont être obligés de traverser l'atmosphère à 40 000 km/h. Ben oui, c'est la vitesse à laquelle on rentre dans la Lune. Donc, il y aura un problème de management, de gestion de ces vaisseaux cargo qui devront rentrer sur Terre. Donc, vous voyez, on est dans une dimension qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Hein? Mais que sera le problème de l'énergie terrestre dans 40 ou 50 ans? Ça vaudra peut-être le coup d'aller vers ce genre de solution. Donc, sachez qu'il y a de l'énergie là-haut et que ça pourrait être utilisé. La rentabilité de l'affaire, on n'est encore pas prêt de la chiffrer. Des satellites d'application, bien évidemment, on les utilise. Ariane, aujourd'hui, 9 satellites sur 10 lancés par Ariane sont des satellites pour la télévision, en particulier. Hein? Alors, télévision, météorologie, navigation, GPS, hein, votre GPS, c'est des satellites. Hein? Qu'est-ce que je peux... Alors, beaucoup, je ne sais pas si je l'ai après, non... bien sûr, de plus en plus de satellites de gestion des ressources terrestres. L'agriculture utilise de plus en plus de satellites pour faire de l'agriculture de précision, avec notamment des images prises par le satellite d'observation SPOT, plus le GPS. GPS, on est bien capable de calculer la superficie d'un champ, les dimensions, etc. Avec SPOT, on est capable de prendre des photos, d'analyser le sol et dire là, il y a plus de calcium qu'à tel endroit, etc. Donc, de dire il faut plus d'engrais à tel endroit plutôt que tel autre, c'est ce qu'on appelle l'agriculture spatiale de précision. Alors ça existe, il y a aujourd'hui 10 000 hectares qui sont gérés comme ça en France. Hein. Et l'année dernière, on a fait une économie de 10 000 tonnes d'engrais grâce à cette agriculture. Hein. Les satellites aujourd'hui ont des vertus qu'on n'imagine pas. Les Indiens sont très en avance là-dessus, en particulier pour le téléenseignement et la télémédecine. L'Inde est un pays en voie de développement. Il y a des villages dans lesquels il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'instituteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il suffit qu'il y ait un infirmier dans tel village qui va mettre, par exemple, un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme sur un patient. Les données sont transmises par satellite à l'hôpital qui est à 1000 km. Et le médecin, en retour, fait le diagnostic et dit soignez-le de telle ou telle façon. Les enseignants, il n'y en a pas partout non plus. Donc, on fait des cours qui sont retransmis par satellite dans un certain nombre d'endroits. En Afrique, le satellite commence à être extrêmement intéressant pour soigner les maladies. Et en particulier pour lutter contre la malaria. Le paludisme. On a fait des expériences, je crois que c'est au Niger, et on est capable de dire maintenant aux populations, avec, en mixant toutes les informations prises par un certain nombre de satellites, leur dire, attendez, ne partez pas dans telle zone à telle époque parce que les conditions d'hygrométrie vont changer et puis les insectes porteurs du germe, du paludisme seront là, etc. Autre exemple qui s'est passé en 2003 en Patagonie, le satellite européen Envisat, qui est un satellite multifonction. Les Argentins y ont fait appel parce que il y a eu, je crois que c'est 2000 morts par des gens qui avaient mangé des coquillages. On se demandait pourquoi. Et Envisat a fait des mesures de température de la mer et a montré que la température de la mer avait monté d'un certain degré qui facilitait la prolifération de toxines dans les coquillages. Tout ça par satellite. Le satellite peut aussi lutter contre la faim. Je crois que c'est au Burkina Faso. Il y a un programme de l'ONU, programme alimentaire mondial, oui, le PAM, géré par l'ONU. Burkina Faso ou Cameroun, je ne sais plus. Enfin, dans l'un de ces pays d'Afrique. Et pour favoriser l'alphabétisation des jeunes filles. Parce que, bon, en Afrique, c'est comme ça, dans un certain nombre de villages, c'est plutôt les garçons qui vont à l'école et les filles restent à la maison à aider la maman à faire la cuisine, etc. Et l'ONU a voulu améliorer l'alphabétisation des filles. Et donc, en échange du fait que la jeune fille va à l'école, l'ONU donne à manger le midi à la jeune fille. Donc, ça évite aux parents, effectivement, d'avoir à financer, si je puis dire, le repas. Mais en échange, l'instituteur doit rentrer tous les jours, d'abord l'absentéisme ou non de la jeune fille, le nombre de calories qu'elle a rentrées, ses résultats scolaires, etc. Donc il y a une gestion et l'alphabétisation en 2 ans est passée de 20% à 80%. Vous voyez, ça peut paraître anodin, mais le satellite est immiscé partout. Je me suis laissé dire il n'y a pas très longtemps que quand vous retirez de l'argent à votre distributeur à la banque, le temps est extrêmement important pour les banquiers au moment où vous retirez de l'argent. Eh bien, tout ça, quand vous retirez à Singapour, vous retirez à Bogota ou je ne sais où, il faut qu'il y ait un temps universel. C'est le satellite qui gère ça. Ah oui, non, mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, si on coupait tous les satellites, qu'est-ce que serait notre vie? On soupçonne pas ça. Hein, voilà. Bon, les stations spatiales, on a dit 2 mots. On va pas en finir là-dessus. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, les petits bonshommes verts, on en a dit 2 mots aussi. Hein. Vous voyez, par exemple, les dessins qu'on voyait dans les années 50. Hein. Alors, la guerre dans l'espace. Alors, je voudrais vous rassurer. Pourquoi je peux vous rassurer? Parce qu'effectivement, pendant la guerre froide, c'était de la folie entre les Unions soviétiques et les États-Unis. Alors, je ne sais pas... Enfin, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Satellite espion », c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Et j'ai voulu décrire cette folie entre les Russes et les Américains. Les projets qu'on avait de chaque côté pour mettre des armes dans l'espace. Mais alors, quand je dis des armes, c'était des milliers d'armes nucléaires, de satellites, enfin, etc., etc. Alors, en passant par la guerre des étoiles de Reagan, vous vous souvenez? Alors, la guerre froide s'est arrêtée en 90, donc tout ça... fait pchit, comme dirait je sais plus qui. Je dirais que la guerre dans l'espace aujourd'hui a du plomb en l'aile. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a plus cet antagonisme entre les deux grandes puissances rivales de l'époque. Et ce n'est pas les puissances secondaires comme la France, comme l'Allemagne, comme le Japon, etc. qui vont se lancer dans des grandes aventures comme ça. Et puis surtout... on est tombé sur quelque chose qui nous ramène à un réalisme important. Et en particulier en 2007 et 2008, les Chinois et les Américains se sont livrés un petit peu pour intoxiquer l'un et l'autre à des destructions de leurs propres satellites qui étaient l'un à 400 km, l'autre à 800 km. Alors ça a parfaitement marché. Ils ont été capables de montrer au monde qu'ils étaient capables de détruire un satellite. Mais le problème, c'est qu'en détruisant satellites, ils ont créé 2000 ou 3000 morceaux de satellites qui, très rapidement, se répandent autour de la Terre. À tel point qu'aujourd'hui, lorsque une navette spatiale, il n'est pas rare qu'une navette spatiale rentre avec un hublot fêlé. Il n'est pas rare que la station orbitale qui tourne au-dessus de notre tête est obligée de donner un petit coup de propulsion à droite ou à gauche pour éviter un débris. C'est de plus en plus fréquent. Donc, une guerre dans l'espace aujourd'hui qui consisterait à détruire les satellites de l'adversaire, eh bien, poserait d'énormes problèmes, non seulement à l'adversaire, mais à ses propres satellites, parce qu'on générerait une quantité impressionnante de débris qui viendrait forcément percuter ses propres satellites. Surtout que un débris percute un satellite qui se transforme en 2000 débris, et puis comme ça, c'est la réaction en chaîne. Donc, personnellement, pour les raisons que je vous indiquais, parce qu'il n'y a plus d'antagonisme qu'on l'a vu pendant la guerre froide, et parce qu'il y a un problème technique évident qui mettrait fin à tout ça très rapidement, donc je crois qu'on peut être assuré, la guerre dans l'espace restera simplement de la science-fiction, cinquième, je sais pas quoi, cavalier, continent, Star Trek, etc. Hein. Voilà. Bon, alors les satellites militaires, on a dit deux mots. Je pourrais simplement ajouter les satellites espions d'aujourd'hui. Bien sûr, ce sont les Américains qui dominent. Ces satellites espions, aujourd'hui, sont capables de voir sur Terre à 10 cm près. Vous êtes allé sur Google Earth. Hein, vous êtes allé sur Google Earth. Vous voyez, ce n'est pas des engins militaires, c'est des engins civils. Et on voit très bien les chaises qui sont dans votre jardin. Hein, sans problème. Et Google Earth, les satellites les plus performants qui sont utilisés ont un mètre de résolution. Les satellites espions américains, c'est 10 cm. Donc, ils voient tout ce qui se passe. Tout. Alors, c'est des satellites qui font 15 tonnes, mais il y en a même qui vont jusqu'à 18 tonnes de masse, qui sont capables de monter sur des orbites, de redescendre, enfin, ils sont capables de tout faire. Il y a 5 ans, un satellite comme ça valait pièce 1 milliard 500 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent du budget spatial français pour une année. Ah oui, non mais... Oui. Aujourd'hui, aux États-Unis, le budget de la NASA, c'est 17 milliards de dollars, et le budget spatial du Pentagone, c'est deux fois plus, c'est 39 milliards de dollars. Alors, on n'en parle jamais. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce bouquin. On n'en parle jamais, mais... Alors, en plus, alors ils ont des satellites espions qui opèrent à la fois dans le rayonnement visible, dans l'infrarouge, radar, capable de voir sous terre. Alors, bon, Ben Laden, ils n'ont toujours pas trouvé, c'est vrai. Enfin, ce n'est pas si simple à dire. Ils sont capables de détecter, avec ce satellite-là d'ailleurs, les départs de missiles adverses, par détection de la chaleur émise par le moteur. Des satellites d'écoute électronique, ils en ont 13. Un seul satellite est capable d'intercepter 100 millions de conversations téléphoniques par mois. Ah oui, 100 millions. Alors, il y a trop d'informations. Ce qui fait que ça, c'est géré par un ordinateur qui réagit aux mots-clés. C'est-à-dire, par exemple, on a rentré dans le mot-clé Al-Qaïda dans l'ordinateur. Donc là, hop, l'ordinateur va pouvoir enregistrer. Par contre, s'il n'y a pas Al-Qaïda, s'il n'y a pas d'autres mots-clés... Ce n'est pas enregistré, on ne va pas utiliser l'information. Mais les Américains sont aujourd'hui dans une phase où il y a trop d'informations. Ils ont été obligés, uniquement pour leurs images de satellites, ils ont été obligés de créer une agence de gestion où il y a 10 000 personnes. Et le budget de cette agence est 6 milliards de dollars. Ah non, mais on est en pleine démesure là. Hein. On est en pleine démesure. Hein. Donc voilà. Bon, j'ai fait il y a un an cette planche, un monde toujours fait de rêve et de réalité. Suivez ce que va dire Obama. Je pense qu'il risque d'y avoir des points d'inflexion. Hein. On n'est plus dans la trajectoire des années 60 où toujours plus beau, etc. Je pense qu'on va arriver à quelque chose d'un peu plus réaliste. Et en tout cas, je l'ai dit, les Américains n'ont plus les moyens aujourd'hui de faire ce qu'ils ont pu faire pendant 40 ans. Hein. Voilà. Alors, Mars, je ne sais pas, tout va dépendre de ce que va dire Obama, mais dans le meilleur des cas, si un jour on va sur Mars, c'est pas avant 2050. Pas avant. On aura tous, On aura tous des cheveux blancs, hein, pour pas dire autre chose. Non, parce que les Américains risquent de retourner sur la Lune vers 2030. Ça a été reculé de 10 ans. Ça sera reculé de 10 ans, probablement. Et il faudra bien 15 ans pour développer un système pour aller sur Mars. Alors en plus, le problème, ils n'auront probablement pas les moyens à la fois de s'implanter sur Mars et en même temps de financer une expédition pour aller... ils n'auront pas les moyens de s'implanter sur la Lune de façon durable, parce que c'est le but, et en même temps de financer une expédition sur Mars. Une expédition sur Mars, au bas mot, c'est 400-500 milliards de dollars. Dans l'économie actuelle c'est pas, du monde, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, on est dans une redistribution des cartes, là. N'imaginez pas que l'espace... on ne peut pas prolonger la courbe qu'on a connue depuis 30 ans. C'est pas possible. Hein? Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que... Je vous ai parlé des Américains, mais l'Europe est quand même bien en retrait de tout ça. Hein? Pour vous préciser un peu les choses, chaque Américain dépense aujourd'hui par an $130 pour l'espace civil et militaire. $130. Chaque Européen, $12. Et pour les vols habités, alors vous savez que les vols habités, l'Europe n'a pas ses propres moyens pour être dans l'espace. Elle utilise les strapontins russes ou les strapontins américains. Mais néanmoins, il y a un budget. Et chaque Européen, vous, moi, on dépense 60 centimes d'euros par an pour aller dans l'espace. Donc c'est tout à fait acceptable. Tout à fait acceptable. Non, on a la démesure américaine, ça c'est clair, et puis on a le reste du monde qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais comme je vous l'ai dit, cette démesure américaine ne va certainement pas durer. Probablement pas. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment.
Les particules laissées par les satellites ne s'autodétruisent pas au bout d'un certain temps?
Qu'est-ce que vous appelez les particules? Les débris?
Les débris.
Alors, ça dépend de l'orbite sur laquelle ils sont. Oui. S'ils sont sur une orbite à 200 km d'altitude, au bout de 6 mois, ils vont descendre. Hein, pas de problème. Mais s'ils sont à 800 km, ils descendront dans 8 ou 9 siècles. Ah oui. Ah oui. Eh bien oui, parce que il n'y a pas d'atmosphère. À 200 km, il y a encore des molécules d'air qui sont là, qui vont freiner. Mais à 800 km, il n'y a plus d'atmosphère. Donc, ils vont tourner indéfiniment.
Et la Terre ne les attire plus?
Ben non, parce qu'ils sont en orbite. Quand vous êtes en orbite, la Terre ne vous attire plus. Vous avez la force centrifuge qui est égale à la force centripète, donc à la gravité. Hein? Et ça peut durer jusqu'à la fin des siècles. Si rien ne vient perturber ça, bien évidemment. Mais quand vous êtes proche de la Terre, il y a de l'atmosphère, ça vient perturber, ça freine. Donc la pesanteur reprend son droit.
Bien, merci.
Autre question?
Est-ce qu'il n'y a pas un scénario d'obligation de l'humanité de devoir s'échapper de la Terre?
Une obligation de l'humanité de partir?
Oui, que l'humanité serait obligée de quitter la Terre.
Oui, mais je ne vois pas comment ça pourrait se faire. Je ne vois pas comment on pourrait envoyer 3 ou 4 milliards d'individus dans les étoiles.
Une partie de l'humanité quitterait la Terre et réussirait à s'en échapper.
Mais attendez, qu'est-ce que vous appelez une partie de l'humanité? C'est quoi, c'est 5 individus ou...
Peut-être plus.
Mais quand vous pensez que d'envoyer 3 hommes dans la Lune, ça coûte 165 milliards de dollars... Comment vous allez financer 10 000 personnes?
Je pense que la question financière, elle est complètement abstraite par rapport à,
vous
par
pensez...
rapport à ça. Bah oui, puisque tout à l'heure, vous l'avez démontré en parlant des budgets qui avaient été signés au moment, par rapport à Nixon, de 10 millions de dollars pour un lancement de navettes. Or, ces budgets sont... ont été 10 fois plus.
Ouais.
Donc la question budgétaire, elle est complètement élastique. Elle est aussi élastique que le temps et l'espace. En matière de volonté, s'il y a une volonté puissante d'aller dans une direction donnée,
mais...
par rapport, par exemple, Mars ou la Lune, ou des étapes intermédiaires entre Mars et la Lune, ce sera fait. Et ce sera fait pour des raisons peut-être terribles, politiques, énergétiques, d'empoisonnement progressif de la Terre, de guerre.
Oui, mais à quoi ça servirait d'envoyer, je ne sais pas, 500 individus alors qu'il y en aurait 2 milliards qui resteraient? Je ne vois pas, là.
Il faut réfléchir.
Ouais. Oui. Oui, oui, non, mais ça, y a l'autre scénario qui consiste à protéger la Terre. Non, moi, je crois de moins en moins à ce qu'on soit capable de partir dans l'espace comme ça. Vous vous rendez compte, déjà, aller sur Mars, il faut 9 mois. On n'est pas sûr que l'équipage va survivre, même pas.
Oui, c'est-à-dire que pour aujourd'hui, c'est probablement extrêmement difficile dans l'état actuel des connaissances et des capacités technologiques d'atteindre dans des conditions réalistes et confortables la Lune ou Mars pour y faire des choses de l'ordre industriel, d'installation permanente et de choses comme ça. Mais ce sont des choses qui vont certainement venir dans le sens où il y a aussi une initiative de réflexion collective mondiale par des groupes de travail complètement informels, de tous âges et de toutes origines, qui travaillent sur cette idée d'installation à l'extérieur de la Terre.
Oui, mais attendez, ça, c'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau, mais ça prend de l'ampleur.
Oh, non, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je pense qu'on y pense beaucoup moins qu'il y a 40 ans. Moi, oui. Je me souviens, il y a 40 ans, effectivement, au sein de l'Académie internationale, c'était un sujet qui nous motivait, ça.
D'accord. Est-ce que vous pensez que l'installation permanente de l'être humain sur les planètes du système solaire ne se fera jamais?
Mais attendez, les planètes du système solaire, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une.
Oui, il y a Mars, oui.
C'est tout, il n'y en a pas d'autres. Oui. Mercure, Vénus, c'est impossible.
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 Ouais. Satellite de Jupiter.
Mais satellite de Jupiter, il faut 7 ans pour y aller.
Oui, mais ça sera plus raisonnable que d'aller...
Satellite de Jupiter, Europe, il fait moins 230 degrés.
Mmh. Ouais, mais
il n'y a pas un arbre. Hein.
Mmh. Non, mais il faudra...
Il y a un océan liquide, c'est vrai. Mais...
Ne pensez-vous pas qu'il y aura une sorte d'utilisation raisonnée du système solaire sur les prochains millénaires qui permettront d'apprendre comment aller à Proxima du Centaure?
Alors, si vous me dites qu'on va inventer une nouvelle physique, alors là, tout est possible. Parce que, je vous l'ai dit, avec la propulsion d'aujourd'hui, c'est pas possible.
Il faudra certainement inventer quelque chose de différent.
Ah d'accord. Non, mais tout est possible à ce moment-là.
En termes de propulsion.
Ah ben. Non, mais on souffre d'un handicap énorme aujourd'hui, c'est qu'on se traîne. La vitesse maximum à laquelle on quitte la Terre, c'est 16 km par seconde. On se traîne lamentablement. Et en plus, ça coûte la peau des fesses, vous pouvez vous imaginer.
Et l'effet de fronde.
L'effet de fronde.
Bah le slingshot effect de l'accélération
en
calcul.
C'est ce que fait Cassini, elle a quand même mis 7 ans pour aller sur Jupiter.
Elle a acquis une vitesse assez relativement élevée aujourd'hui.
Oui, mais vous savez très bien, quand il y a l'effet de fronde, en général, on revient faire un tour vers la Terre qui vous projette, etc. Hein, donc ça ne ralentit pas le temps. Hein. Non, mais tout est possible, surtout quand on imagine. Mais quand on voit les chiffres, on s'interroge. On s'interroge. Aujourd'hui, je suis désolé, vraiment, on se traîne et ça coûte la peau des fesses de quitter la Terre. C'est terrible. Depuis 30 ans, je dis bien, sur Ariane, on a travaillé pour réduire les coûts. Vous ne pouvez pas vous imaginer. On les a baissés de 25%. C'est ridicule. Même en baissant de 25%, chaque kilo de satellite qu'on lance coûte $20 000. Le lancement d'un kilo, c'est $20 000. Vous n'allez pas lancer 100 000 personnes dans l'espace pour un coup nul, là. Non, mais ça, c'est bien le débat. C'est bien, Non, mais c'est ça qui est intéressant dans l'espace, si vous voulez, c'est qu'on a à la fois la tête dans les étoiles et les pieds dans la glaise. Hein. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est un domaine fantastique. Vous allez de la vis de quatre à la poésie la plus pure. Hein. C'est ça qui fait rêver. Il n'y a pas beaucoup de domaines d'activité humaine qui sont capables de vous emmener comme ça dans toutes ces directions. Hein. Et ce qui est fantastique dans l'espace, c'est que demain, tout est possible. Demain, tout est possible. Demain, c'est un peu ça. Mais voyez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. La logique voulait qu'on aille des lanceurs comme Ariane qui sont consommables, hein, je l'ai dit tout à l'heure, les étages propulsifs retombent dans la mer, qu'on aille vers un engin complètement récupérable, l'avion, etc. Et je vous ai dit, il y a une phase de transition, c'est la navette spatiale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Américains abandonnent la navette spatiale et sont en train de faire des lanceurs classiques en reprenant la technologie de Saturn V d'Apollo. On a un pas en arrière phénoménal. Phénoménal. On est revenu 40 ans en arrière. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'espace. On a toujours été sur une trajectoire de progression. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas ce qu'on sera fait demain, j'en sais rien. Mais on est vraiment à une période charnière en ce moment. C'est pour ça que tout le monde attend le discours d'Obama.
Les Chinois ont dit un programme spécial.
Ah oui, oui. Oui, oui. Bah, les Chinois, ce n'est pas nouveau. Ils lancent des satellites depuis 1970. Hein. C'est le troisième pays à envoyer des hommes dans l'espace par leurs propres moyens. Et ça, depuis 2003. Alors... Le problème avec la Chine, on ne sait jamais s'ils ont décidé ou pas décidé. Hein. C'est le processus décisionnel, ce n'est pas comme chez nous. Hein. Descartes, il a jamais mis les pieds en Chine. Hein. Mais ils sont en train de concevoir une mini-station orbitale pour dans 2 ans et une plus grosse de 20 tonnes avec 6 modules après pour 2017 ou 2020. Donc, de refaire en gros ce qu'ont fait les Soviétiques précédemment. Hein. D'ailleurs, c'est une technologie soviétique, à la fois le vaisseau, les scaphandres, etc. Donc, les Chinois sont en train de se positionner, j'ai envie de dire, plus au plan du prestige, pour l'instant, hein, pour montrer qu'ils sont dans le club des très grands de l'espace, que pour autre chose. La preuve en est, c'est que, comme les Indiens, ils ont envoyé une sonde autour de la Lune il y a 2 ans. Donc, ils sont capables de dire maintenant au monde entier... On met des satellites sur orbite, mais on est capable de faire le tour de la Lune. Vous voyez, c'est...
On ne pourrait pas avoir une course à l'espace comme on l'a eu dans les années 60 ?
Non. Non. Non, parce qu'il n'y a pas d'enjeu politique comme ça. N'oubliez pas que l'économie américaine dépend de l'économie chinoise. La Chine, aujourd'hui, est le plus grand détenteur de bons du trésor américain. Donc, ils n'ont pas intérêt à se faire la gueule. Hein, ils se tiennent par la barbichette tous les deux. Hein. Donc, ils ont plutôt intérêt à s'entendre. Moi je pense que c'est... Honnêtement, les dépenses qu'on a vues dans les années 60-70, tant spatiale civile que spatiale militaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, on verra plus ça. Enfin, on verra plus ça. Je ne sais pas dans 2000 ans, hein, mais dans 2000 ans, il y aura d'autres problèmes à régler avant ça. Hein. Mais non, on verra plus ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que cette compétition a été une émulation absolument phénoménale pour la conquête spatiale. Ça, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Ah ben, il y a d'abord un problème de décalage. Les ondes radio... Je ne suis pas un grand spécialiste du domaine, hein, loin de là. Le problème essentiel, c'est le problème du temps de parcours, 300 000 km à la seconde. Si vous êtes quand vous êtes sur Mars, selon le positionnement de Mars et de la Terre, les communications radio mettront entre 7 minutes et 40 minutes. Ça posera d'ailleurs un problème, parce que il y aura donc une autonomie de l'équipage dans la décision. Ils pourront pas, dans certains cas, ils pourront pas attendre d'avoir la réponse du centre de contrôle de Houston ou d'ailleurs en disant faites ci ou faites ça. Bien sûr. Ah ben, là, les communications sont interrompues puisqu'on passe derrière la face cachée de la Lune. Ah, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Ouais. Ils savaient pas ce qui
allait se passer derrière. Ouais. Mais dans le cas de Mars, ça sera encore plus probant. Hein. Ouais. Mais ce sera tout le problème du voyage sur Mars. Ce sera vraiment l'indépendance de la mission, et notamment du point de vue médical. Parce que si vous avez une appendicite pendant le temps de trajet... Bon, mais attends, appendicite, d'accord, je ne sais pas quoi, moi, autre chose. Hein. Non, mais... Donc, il faudra probablement embarquer un chirurgien. Et ça va plus loin. Si le chirurgien est lui-même est obligé de se faire opérer. Bon, vous voyez, ça pose des problèmes qu'on...
Moi, ce que j'ai bien aimé au début de votre conférence, c'est que vous avez montré les peintures rupestres.
Ouais.
Il y a très loin entre, évidemment, vous auriez pu aussi choisir 2001, Odyssée de l'espace, l'os qu'on lance et qu'on récupère à la fin du film.
Ouais.
Alors, moi, je vais vous dire ce que je crois penser, c'est que toujours, l'homme a été confronté entre le mythe et la réalité, entre le symbole et la réalité.
C'est vrai.
Et qu'on voit, justement, dans les créations humaines, qu'ils sont toujours côte à côte. Et il y a des moments dans l'histoire où ils se rejoignent. Paradoxalement, quand on voit le travail qui a été fait dans l'Antiquité, notamment par les Grecs, sur le mythe, eh bien, vous parliez du feu tout à l'heure, c'est Prométhée. C'est le feu dérobé au ciel.
Oui.
Donc, aujourd'hui, on est techniquement, avec les techniques modernes, on est dans l'impasse. Tout ce que vous avez dit est vrai. Mais si vous prenez un livre qui est paru dans l'Encyclopédie Planète en 1962, Les prédictions d'Arthur Clarke, c'est très intéressant, parce que 62, c'est antérieur à l'apparition de l'homme sur la Lune. Eh bien, moi, comme je savais que je viendrais à votre conférence, j'ai regardé ce livre que j'ai à la maison et je me suis aperçu qu'il avait prévu beaucoup de choses. Pas toujours dans les temps qui sont les temps réels maintenant, mais il n'avait pas prévu la révolution médiatique, il n'avait pas prévu
informatique.
Informatique, il n'avait pas prévu non plus Google. Donc, si de ce côté-là, alors que Arthur Clarke, c'était tout le contraire d'un rêveur, c'était un savant.
Oui.
Si dans ce domaine-là, on n'a pas pu prévoir à 60 ans d'écart la réalité, ça veut dire qu'on l'a quand même côtoyé, qu'on a été asymptotique à la réalité. Et l'homme est toujours asymptotique de quelque chose. Parce que l'homme, il veut ouvrir des portes. Et l'intérêt de la vie, c'est qu'il n'y ait pas une porte définitive. Parce que la porte définitive, c'est l'horreur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avancer, on ne peut plus progresser. Et entre transgression et progression, tout ça se frôle. Alors, il est possible aussi, parce que la science-fiction, moi j'ai été un grand lecteur de science-fiction, notamment des livres de Paul Anderson, de Herbert, de Dune. Bon. Et quand on voit les choses qui se sont passées depuis cette époque, on est en droit de penser, avec les progrès de l'intelligence et des capacités d'analyse, qu'il y aura des moyens de propulsion qui permettront, peut-être dans 1000 ans, mais 1000 ans, 1500 ans, c'est le temps qu'il faudra pour que la Terre devienne inhabitable. Et puis, une dernière chose qui est importante, toujours par rapport au mythe, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans la Bible, les Adonai, traduction littérale, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Et que, dans la Bible aussi, mais c'est du symbole, il y a les filles d'Ève et les filles de Lilith. Et si la terre avait été ensemencée par une civilisation venue d'ailleurs? Point d'interrogation.
On peut peut comparer la colonisation de l'espace à la colonisation des îles du Pacifique. Les gars, ils partaient sur des radeaux. Il y en a certainement de nombreux radeaux qui se sont perdus. Les gens, ils ne sont jamais arrivés nulle part, mais il y en a quelques-uns qui sont arrivés sur des îles. On peut penser des vaisseaux. Et alors, à la mode à Tchaïkovski, avec une gravité artificielle, une gravitation artificielle, des plantes, des arbres, etc. Et les gars partent sans espoir de retour. Ils partent comme ça pour chercher autre chose parce que ça devient invivable sur la Terre. Et peut-être qu'il y en a qui arriveront, alors après 3, 4, 10 générations, quelque part. Comme non.
J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout.
Et par contre, quelque chose de plus pragmatique, est-ce qu'on peut expliquer facilement, rapidement, comment on peut faire marcher une fusée à l'énergie nucléaire? Qu'est-ce qu'on projette pour...
Alors,
parce qu'il y a une quantité de matière qu'il faut éjecter pour avoir la plus...
Absolument.
Est-ce qu'on peut répéter sa question?
Ouais.
Alors, la question c'est, comment expliquer simplement comment on fait marcher une fusée avec l'énergie nucléaire? Parce qu'il faut quand même une quantité de matière qui est éjectée pour pousser la quantité de matière qui avance. Donc où elle est prise cette matière? Il faut l'emmener avec soi.
Alors, l'énergie nucléaire à bord de la fusée n'est uniquement là que comme source de chaleur. C'est-à-dire que le carburant, c'est l'hydrogène. Et donc l'hydrogène liquide qui va être chauffé par la réaction nucléaire. Il va être chauffé très très fort puisque ça dégage des températures importantes. Donc l'hydrogène liquide va se transformer en hydrogène gazeux. Et ce gaz hydrogène va être détendu dans la tuyère, comme il l'est actuellement dans la propulsion. Donc c'est...
Il y a une grosse consommation aussi de quantité de...
Alors, vous avez tout à fait raison. Avec, si, par exemple, pour aller sur Proxima du Centaure, que j'indiquais tout à l'heure, vous pourriez me dire, mais on va prendre la propulsion nucléaire. Alors, effectivement, on va gagner en performance. Mais le problème, c'est qu'il faut une quantité d'hydrogène phénoménale. Il faut 1 million d'équivalent de tankers de 300 000 tonnes d'hydrogène. Donc, ce n'est pas possible. Ça ne résout pas le problème. Ah non, non, mais le nucléaire, même la fusion thermonucléaire ne résout absolument pas le problème. Non, mais quand je vous dis qu'on est coincé sur d'autres terres... Mais bien sûr, pour l'instant. Bah, oui.
Oui, moi, je voudrais dire...
Oui.
Hein?
Non. Non, il y a un traité de 79 qui interdit la Lune n'appartient à personne. Mais ça n'a pas empêché Ronald Reagan, Clint Eastwood, Sean Penn, etc. d'acquérir des hectares sur la Lune.
Oui.
Mais ça, c'est américain, ça. Mais ils peuvent rêver, c'est pas grave.
Non, mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que vous pensez de ce que dit Norbert Wiener. Vous avez entendu parler de Norbert Wiener?
Pas du tout. Non, je ne connais pas.
C'est le père de la cybernétique.
Oui, ben, je ne connais pas bien, non.
Ah bon? Cybernétique?
Non.
Communication?
Non, alors qu'est-ce qu'il disait?
Alors, ce n'est pas la peine que je pose la question.
Pourquoi pas?
Non, parce que Wiener, dans Cybernetics, dit un jour, on pourra transmettre la vie par ondes électromagnétiques.
Ça me dépasse.
Bon, c'est un plan un peu fou, mais pas plus fou que tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure.
Je sais pas.
Je pense que les travaux, ce qui m'a intéressé, c'est les travaux de Jacques Benveniste, qui commençait à avoir la possibilité de numériser des molécules organiques. Vous n'avez pas entendu parler?
Ben, c'est pas tellement mon sujet. Non, c'est pas tellement mon sujet.
Comment? Oui, d'accord, oui. Non, mais je pense qu'on arrivera un jour proche à numériser les molécules organiques et à part... On y arrive, effectivement. Et je pense qu'à ce moment-là, le projet de déplacer de la matière vivante à des années-lumière sera beaucoup moins complexe si on peut la transporter sous cette forme numérique.
Peut-être, je ne sais pas.
N'est-ce pas? Oui, oui. Non, mais c'est quand même fou. C'est pour ça.
Monsieur, une dernière question, là, peut-être.
Je
savoir si un établissement permanent sur la Lune présenterait de l'intérêt. Enfin, selon vous, comme ça, à première abord.
Oui, non, mais c'est un établissement sur la Lune, moi, je pense que ça présente de l'intérêt. Alors, ça présente de l'intérêt pour plusieurs raisons. Préparer effectivement une éventuelle exploitation des ressources naturelles. Hein, si on en a besoin un jour, il faut. Bon, par ailleurs, la face cachée de la Lune est intéressante pour l'exploration de l'univers. Mettre des télescopes, des radiotélescopes sur la face cachée, c'est intéressant parce que la Lune n'a pas d'ionosphère, n'a pas d'atmosphère, donc on n'est pas perturbé comme on l'est sur Terre. Et en plus, sur la face cachée, on n'est pas perturbé par l'albédo de la Terre, enfin la luminosité terrestre. Donc ça, la face cachée de la Lune peut être intéressant. Alors certains astronomes nous disent, mais il n'y a pas besoin d'aller sur la face cachée, il suffit de mettre de grands télescopes au point de Lagrange, au point d'équilibre entre les trois corps, Soleil, Terre, Lune, et ça se passe très bien. Bon, ça c'est des débats, mais bon, pour répondre à votre question, mais alors, la base permanente sur la Lune, elle n'est viable que si on y trouve de l'eau. On va quand même pas apporter tous les 15 jours des tonnes d'eau de la Terre. Ça va coûter. Hein? Alors, attendez, il y en a. Attendez. Reprenons ce qui a été dit. Hein? Reprenons ce qui a été dit. Attendez. On va faire le point là. Reprenons ce qui a été dit. 1994, la sonde Clémentine américaine est la première à détecter de l'hydrogène sur la Lune. Confirmée 4 ans plus tard par Lunar Prospector. Comme il y a de l'oxygène dans les roches ramenées par Apollo, hydrogène, oxygène, on se dit qu'il peut y avoir de l'eau. Ok. Cela étant, vous noterez comme moi qu'entre 1998 et 2009, pendant 11 ans, les Américains n'ont pas envoyé de sonde sur la Lune pour voir s'il y avait de l'eau. Ça, je n'ai toujours pas compris pourquoi. D'accord ? Ce sont les Européens en 2003 qui ont envoyé la sonde Smart One, qu'on a envoyée au pôle sud de la Lune, là où on pense qu'il y a de l'eau sous forme de glace. Le fait de percuter la Lune, les éjecta auraient pu nous permettre de voir s'il y avait de la glace. On n'en a pas détecté, mais ça ne veut pas dire que nos moyens de mesure étaient aussi adaptés à cette détection. Bon. Les Japonais, il y a 2 ans, ont fait la même chose avec leur sonde Kaguya. On n'a pas trouvé de glace. Les Chinois ont fait la même chose avec leur sonde Chang'e. On n'a pas trouvé de glace. La sonde américaine, Lunar Prospector, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui avait un sous-satellite qui s'appelle LC-Cross, a percuté la Lune le 9 octobre. Et là, la NASA nous a dit, on a trouvé au moins 100 kilos de glace. 8 jours avant, la NASA déclare que la sonde Cassini, que la sonde indienne Chandrayaan, ont détecté des molécules d'eau au cours des 6 derniers mois. Voilà où on en est. Voilà les faits objectifs. Donc, attendez, il y a peut-être de l'eau, il y a plus de chances qu'il y ait de l'eau sur la Lune qu'il n'y en ait pas. Mais pour l'instant, attendons. Hein, attendons.
C'est pas l'hypothèse qu'en fait l'eau présente serait le crash d'une comète et que ce serait très
possible. Non, mais s'il y a de l'eau, c'est probablement des comètes qui, au moment de la formation du système solaire il y a 4 milliards d'années, et notamment la formation de la Lune, ont déposé leur glace. C'est probablement ça. C'est la théorie des scientifiques aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas eu d'océan sur la Lune. Il faut en être conscient. Hein. Donc, voilà où on en est. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est très important ce qui se passe actuellement, les analyses qui sont faites. Mais admettez qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'eau sur la Lune, la base permanente, elle a un peu de plomb dans l'aile. Hein. Hein. Bon, voilà. Non, mais je vous dis, on vit une période actuellement qui est très intéressante. Il y a beaucoup d'interrogations, hein, ça c'est clair, mais maintenant il faut leur prendre les bons chemins.
Merci beaucoup, monsieur Villain. Donc, on va se retrouver en haut comme d'habitude. Il y a quelques bouquins qui vont être présentés. Il y a l'histoire de la station Mir. Il y a un livre sur la conquête de l'espace, qui est un petit peu la conférence de ce soir. Il y a un livre sur les satellites espions. Il y a un livre sur Esnopelterie, s'il y a des gens qui sont intéressés. Voilà. Et Monsieur Jacques Villas, ce sera un plaisir de vous dédicacer absolument ces ouvrages.
Merci.
Alors, à tout de suite. Les bouquinistes qui seront au Salon de Blossac, et il y aura quelques livres sur la conquête de l'espace, le livre de l'astronautique de Esnopelterie, des biographies de Tsiolkovski, un livre de Hermann Oberth, des matchs, un Figaro du 21 juillet 1969.
C'est intéressant.